Donna. 7h30, l'invité de Béatrice Rulle. Aujourd'hui, 6 minutes avec Jérôme Guigax. Il est historien et spécialiste des États-Unis, Béatrice.
Bonjour Jérôme Guigax.
Bonjour.
Je précise que vous êtes en direct de nos studios à Lausanne. Donald Trump, donc actuellement 246 grands électeurs, 187 pour Kamala Harris. Donald Trump a remporté deux États pivots, la Caroline du Nord, la Géorgie. Il est en tête dans d'autres comme la Pennsylvanie et le Michigan d'après les dernières projections. Donald Trump est donc très très bien parti pour retourner à la Maison Blanche.
Oui, excusez-moi, vous voulez
c'était
ma réaction.
C'était une question, absolument.
Ah, c'était très bien. Écoutez, oui, c'est vrai que normalement, on parle de ce mirage. Donc, il y a le phénomène de délai. Les États tournent rouge avant de réagir, éventuellement de traverser ou de changer, ce qui a été le cas par le passé. Mais c'est vrai que là, cette nuit, en tout cas tard dans la soirée, hier, l'Iowa n'était pas formellement un swing state, mais on était surpris par le fait que l'Iowa avait changé. Et maintenant, avec la dimension des écarts, et effectivement la Caroline du Nord et la Géorgie qui tombe du côté de Trump, il est effectivement difficile d'imaginer comment Kamala pourrait remporter l'élection, et la Pennsylvanie évidemment c'est la pièce maîtresse de ce jeu.
Alors comment l'expliquer cette potentielle victoire de Donald Trump malgré toutes ses outrances, malgré toutes ses provocations vues de Suisse, ça semble complètement fou.
Oui, pour les Européens, je crois qu'on a de la peine à avoir un sens de simplement à se représenter le fonctionnement, les mécanismes de ces élections aux États-Unis, avec une part très importante de non rationnel. Hein. Le parti de Trump, le parti républicain qui est devenu le parti de Trump, s'est transformé bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016, pour la première fois à la présidence. Et je pense que un des facteurs, c'est cette longue, disons, tendance qui s'est inscrite et qui a évacué ce qu'on appelle les RINOs, les Republic in Name Only, c'est-à-dire les républicains de l'ancienne formation, par les Firsters, c'est-à-dire ceux qui représentent les courants radicaux extrêmes de Trump. Donc pour répondre à ça, il y a cette tendance à long terme, et puis il y a évidemment les stratégies immédiate de jeu sur la haine, sur l'insatisfaction, sur toutes les formes de distorsion de ce que représentait cette réalité sociale. Et ça, évidemment, ça a parlé et ça marche toujours mieux que, évidemment, les chemins complexes et les réponses longues.
Kamala Harris, la candidate démocrate, elle avait un slogan: When we fight, we win. Quand on se bat, on gagne. Les démocrates ne sont donc pas assez battus.
Alors, ils ont certainement sous-estimé, ou en tout cas, ils n'ont pas réussi à construire un contre-narratif concernant la situation économique du pays, qui, dans bien des cas d'ailleurs, et on le voit pour les classes populaires, est très mauvaise, et également par rapport à des questions qui ont été soulevées par le parti de la droite Trumpienne, c'était la question de l'immigration. Donc oui, je pense qu'il a été difficile d'entrer dans une campagne avec dire la vérité, expliquer les complexités, et je pense que ça a été une des failles de cette stratégie. Évidemment, on le sait, ça a été dit et redit, c'est le poids de cette administration Biden qui, dans les circonstances actuelles et vu la conjoncture, était extrêmement mal parti pour répondre à des attentes immédiates des électeurs.
Et puis Joe Biden qui s'est retiré extrêmement tard. Il était encore candidat jusqu'à mi-juillet. Kamala Harris, même si elle était vice-présidente, elle n'était pas connue. Elle a dû endosser ce rôle de candidat très rapidement. C'était déjà compliqué pour elle dès le départ.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que si on voit le rôle qu'a joué notamment Nancy Pelosi, un peu des rôles de coulisses qu'on ne voit pas forcément dans les médias, pour réussir à permettre finalement à ce Joe Biden de quitter, qui probablement n'aurait jamais dû être sur le ticket. Le problème, c'est le problème de ces systèmes qui, vieillissant, n'arrivent pas à renouveler leur base, qui n'arrivent pas à proposer des candidats suffisamment, je dirais, en mesure de se profiler. Et ça, c'est le gros problème du Parti démocrate, et sans doute des démocrates, bien sûr, des tendances progressistes dans d'autres pays. C'est-à-dire que au fond, ils n'arrivent pas à se reconnecter avec une base. Le Parti démocrate avait complètement abandonné la base qu'on appelait la base des partisans de Sanders, c'est-à-dire qui voulait adresser des questions fondamentales au niveau de la société. Et le Parti démocrate, pour ça, à mon avis, a failli. Il s'est trop éloigné de sa base électorale.
Donald Trump à la Maison Blanche, cela a bien sûr des répercussions mondiales. Ce matin, c'est Vladimir Poutine qui se frotte les mains.
Alors oui, bien oui, d'une certaine manière, les autocrates ou les autocrates du monde entier, ceux qui dédaignent et méprisent les systèmes de fonctionnement représentatifs et évidemment l'état de droit, peuvent se réjouir. Et je pense que d'un autre côté, tous les autres démocrates et gouvernements démocratiques peuvent s'inquiéter du fait que c'est moins Trump maintenant qui est inquiétant, c'est une forme de trumpisme, une forme de discours ultranationaliste qui va continuer à prévaloir et au mépris du droit et au mépris finalement des individus si on prend leur liberté.
Ce que voulez-vous me dire, c'est que cette tendance populiste, elle s'est déjà beaucoup développée en Europe, mais va encore plus se propager, c'est ce que vous craignez ?
Oui, je le crains, et surtout parce que derrière Trump, il y a des fondations extrêmement puissantes dont on n'a pas fait l'histoire. On croit que Trump, en fait, vient tout seul. Oui, bien sûr, ça fait partie de la mythologie, du self-made man, mais en réalité, les fondations qui ont financé Trump ont financé dans les années 80 les mouvements d'extrême droite européens, y compris le Thatcherisme, le mouvement de Thatcher dans les années 80. Et donc, il y a quelque chose qu'on sous-estime aussi souvent, c'est cette internationalisation, ces relations qui existe entre les mouvements ultra-conservateurs. Et je pense que cette tendance est loin d'être limitée aux seuls États-Unis.
Merci beaucoup Jérôme Guigax, historien spécialiste des États-Unis. Donc à 7h36, Donald Trump est en passe d'être réélu. Il a actuellement 246 électeurs, c'est-à-dire qu'il ne lui en manque plus que 24 pour être officiellement le 47e président des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup Jérôme Guigax d'avoir été sur Radio Lac.
Merci à vous.
Et une interview à retrouver dès à présent en podcast sur radiolac.ch.
On vous souhaite un excellent réveil, il est 7h passées de 37 minutes, le meilleur de la musique pour vous accompagner ce matin avec Murray Head pour la suite.